Merci Élisée pour cette introduction où on a pu déjà entendre une prédication sur la justice sociale. En tout cas, la vidéo que nous venons de voir a très bien décrit ce que c'est que la justice. Et j'aimerais cependant vous présenter quelques versets dans l'Ancien Testament ce matin et dans le Nouveau Testament qui concernent le sujet d'aujourd'hui sur la justice, mais en même temps... nous allons aussi voir pourquoi nous ne pratiquons pas cette justice, pourquoi nous n'arrivons pas à mettre en pratique ce que nous avons appris, pourquoi, et pour cela on va aussi un peu voir les péchés qui sont en nous. Tout d'abord, la justice sociale dans l'Ancien Testament, que nous pourrions aussi voir, enfin, il y a plusieurs versets, nous avons déjà vu ce matin, plein de versets qui décrit... ce que nous devrions faire, et dans Deutéronome 10, 18, il est écrit un verset qui parle de l'orphelin, de la veuve, de l'étranger qu'on doit prendre soin. Je vous lis, verset 18, « Qui fait droit à l'orphelin et à la veuve qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. » Voilà donc le Seigneur, à travers sa loi, il veut que son peuple prenne soin de son prochain. Ceux qui sont surtout dans le besoin, les plus démunis, les plus faibles. Là, il est dit, il est question de l'orphelin, de la veuve, de l'étranger. Mais ce matin, nous avons vu aussi qu'il y avait une définition plus large des pauvres, n'est-ce pas? Et en tout cas, c'est un verset assez intéressant. Il y a aussi d'autres versets que je vais vous présenter dans Deutéronome 24, verset 19, où il est écrit aussi. Là, il est question de moissonnage. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une germe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Dans ce verset, nous voyons aussi que Dieu pense ou se préoccupe des pauvres et il demande aux plus riches, lorsqu'il fait le moissonnage, de ne pas tout rafler leurs produits de la terre, mais d'en laisser quand même un petit peu pour les pauvres. Et c'est comme ça d'ailleurs que, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Ruth, Ruth a pu rencontrer Boaz, parce que Boaz était le propriétaire d'un grand champ, et puis Ruth était là, une étrangère, une pauvre, une veuve, qui justement glanait pour subvenir à ses besoins. Et c'est comme ça qu'elle a pu rencontrer Boaz. Voilà, Dieu vraiment s'inquiète aux plus pauvres, s'inquiète des plus démunis, les plus démunis. On peut voir aussi d'autres versets dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 10, versets 1 et 2, où on voit que Dieu juge ceux qui méprisent, qui pratiquent l'injustice. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes. Pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Ici, Dieu prononce des malédictions aux méchants juges qui pratiquent l'injustice, en tout cas aux plus forts qui martyrisent les plus faibles. On peut voir ça dans toutes les sociétés, même de nos jours, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça se pratique encore aujourd'hui dans la société actuelle, même en France aussi. Dans Deutéronome 24, il est écrit encore « Tu n'opprimeras point le mercenaire pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher de soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. » Apparemment, à cette époque aussi, les gens, ou plutôt les employeurs les plus riches, les riches en tout cas, ne payaient pas forcément le salaire. De temps en temps en tout cas. Et qui trompaient même le salaire. On peut voir ça dans l'histoire de Jacob et de Laban, son oncle Laban. Est-ce qu'en France, ça existe ou pas? Oui. Ceux qui ne veulent pas payer le salaire? Oui. Ouais. surtout ceux qui font le travail au noir. Là, l'employeur, il dit, là, tu n'as pas fait assez de travail, donc je ne te paye pas. Et comme c'est un délit de travail au noir, ils sont injustement traités. Oui, il y a l'injustice partout. Que ce soit il y a plus de 2000-3000 ans, que ce soit encore aujourd'hui, il y a de l'injustice. Ça, c'est, je vous ai parlé des versets qui sont dans l'Ancien Testament. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de versets qui parlent de l'injustice sociale, de l'injustice tout court, et que ce que le peuple de Dieu devrait faire. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi des versets qui parlent de l'injustice, ou plutôt, Dieu préoccupe les plus pauvres. Il veut vraiment que nous nous entraidions les uns des autres pour vivre ensemble, pas pour écraser l'autre. Dans Luc chapitre 12, on voit une parabole que le Seigneur raconte. Je vous lis. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte ? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il est question que le Seigneur nous confie un certain bien matériel et qu'est-ce que nous faisons avec ? Nous ne sommes pas des propriétaires de toute cette chose. Nous ne sommes que des gérants. Et le Seigneur, ici, à travers cette parabole, nous invite vraiment à bien gérer ce que le Seigneur nous a confié. Ne soyons pas des égoïstes, des cupides. Au contraire, amassons des trésors, pas sur la terre, mais dans les cieux, en aidant, bien sûr, ce que le Seigneur nous a, en aidant les plus pauvres, mais en même temps en partageant, en prenant soin de mon prochain. Dans Matthieu aussi, j'aimerais encore choisir un dernier passage pour un peu décrire tout ce qui est marqué, c'est vraiment très peu, les versets que je viens de choisir sont assez peu par rapport à tout ce qui est marqué dans toute la Bible en ce qui concerne la justice sociale. Dans Matthieu 25, il est dit, après avoir raconté l'histoire des 10 vierges, après avoir raconté le parabole des talents, en parlant de l'urgence de veiller, parce que le Seigneur revient, il raconte cette histoire où justement nous serons un jour devant le tribunal, devant ce grand roi, le Seigneur des Seigneurs. Et là, ce grand roi nous dirait ainsi, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondirent et répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ? T'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous accueilli ou nu, t'avons-nous vêtu ? Quand avons-nous vu malade ou en prison, où sommes allés vers toi ? Et le roi lui répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est à moi que vous les avez faites. À travers cet exemple, à travers cette parabole, Seigneur Jésus veut vraiment que son peuple soit bienveillant envers les plus faibles, envers les plus démunis, envers les plus pauvres, avec la définition de Élisée de ce matin, un peu plus élargie. Et c'est comme ça que nous devons agir en tant que chrétiens. Comment nous pouvons aider les autres? En ce moment, il y a la guerre en Ukraine. Il y a beaucoup de demandes d'aide. Comment vous faites? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut les accueillir? J'ai reçu ce matin un message d'un copain qui est à Strasbourg et qui disait « Je suis en train de collaborer avec des églises baptistes en Pologne pour chercher et héberger des familles ukrainiennes. On a besoin des cars, des chauffeurs, des familles d'accueil en France. » Voilà. Hier aussi, nous avons discuté ensemble dans le cadre des églises de Nancy, comment nous pourrions faire pour accueillir tous ces réfugiés qui vont venir et est-ce que nous sommes prêts aussi à les accueillir. En tant que chrétien, il est normal d'aider mon prochain, puisque nous avons reçu cette grâce. Puisque nous avons reçu, goûté cette expérience avec le Seigneur. Cependant, vous direz peut-être, il n'y a pas que les chrétiens qui font ça, il y a aussi des non-chrétiens qui sont aussi pour aider les plus pauvres. Oui, certes, c'est vrai. Heureusement d'ailleurs, je dirais même, oui, ils n'ont pas la foi chrétienne, mais ils ont reçu, je dirais, la grâce. Vous savez que le Seigneur accorde la bonne pluie aux bons et aux mauvais. De même, le Seigneur accorde aussi cette conscience, cette miséricorde aux chrétiens et aux non-chrétiens. C'est pour ça qu'on peut avoir cet équilibre dans le monde entier. Mais la seule différence, c'est que nous avons expérimenté l'amour de Dieu. Nous avons tellement reçu de la part de Dieu, nous voulons obéir à ce commandement d'aimer mon prochain. Alors pourquoi les gens ne pratiquent pas cette justice sociale? Tout simplement peut-être parce qu'ils ont oublié cet amour, ou tout simplement parce qu'ils sont dans le péché, parce qu'ils sont cupides, etc. La cupidité est un désir excessif pour quelque chose qui peut être matériel ou non. C'est vrai que dans la nature de pécheresse, il y a cette cupidité qui est présente. Est-ce que vous pensez qu'un homme riche se contente de ce qu'il a? Oui? Non, je ne pense pas. Hein, oui. On voudra toujours avoir plus. Vous connaissez Rockefeller? Oui? C'est un des plus riches au 19e siècle et début 20e siècle. Il était vraiment un des milliardaires le plus riche du monde, l'homme le plus riche du monde. Et un journaliste lui pose cette question: vous avez tellement d'argent, êtes-vous satisfait de votre richesse? Et là, il répond: eh bien, j'aimerais avoir plus, encore plus et encore plus. C'est ça, le cœur de l'homme. On aimerait avoir encore plus. Mais il faut aussi savoir partager. Partager. Cette convoitise que nous avons, qui nous empêche d'aider les autres, c'est décrit aussi dans les 10 commandements. Le 10e commandement dit: tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Le problème, c'est qu'on est tellement... On aime bien comparer les uns des autres. Et c'est pour ça que mon prochain, on ne le voit pas comme un être qu'on doit aimer, mais plutôt un être qu'on doit concurrencer ou un rival. Si l'autre a une voiture meilleure que la vôtre, qu'est-ce que vous faites en général? J'ai vu un film comme ça, la comparaison entre deux voisins qui, au départ, achètent... c'est un peu long. Mais finalement, voilà, on va avoir toujours plus, quelque chose de meilleur que l'autre, mon voisin, etc. Et ça n'arrêtait pas. Or, la volonté première du Seigneur, c'est qu'on s'entraide, qu'on aime, qu'on vit ensemble. J'aimerais vous lire dans Éphésiens 5, à partir du verset 3 jusqu'à verset 5, sur l'identité du péché, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Au verset 5, sachez bien que qu'aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Un peu plus tard, donc on voit ici l'impudicité, l'impureté, la cupidité, justement, nous empêche d'aller de l'avant. Par contre, au verset 9, il est dit, le fruit de la lumière consiste en toute chose de bonté, de justice et de vérité. Lorsque nous sommes en Dieu, nous pratiquons, nous avons cette bonté, nous pratiquons la justice et nous agissons dans la vérité. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, il dit que l'impudicité, l'impureté, cupidité ne soient même pas nommées parmi vous. Là, on parle des... On appelle ça quoi? L'adverbe, c'est ça? L'impudicité. C'est pas un nom. Si, c'est un nom. Un nom, un nom. Donc, il ne faut même pas prononcer, il ne faut même pas être proche avec ce genre de choses. Et ensuite, au verset 5, sachez bien qu'aucun impudique, ce n'est plus un nom, mais c'est une personne, c'est devenu une personne. Ce nom est devenu une personne. Je prends un exemple. On peut mentir une fois. Après, on peut se repentir et ne plus mentir. Ici, on a l'impression qu'il y a une évolution du péché. Lorsque le péché entre en l'homme, ce péché colle à la peau, produit des effets à l'intérieur de l'homme, et ça fait évoluer. Et cette mensonge ou cette cupidité qui est entrée en vous prend de la place. Et ainsi, l'homme devient le pécheur. L'homme devient cupide. L'homme devient impur, l'homme devient impudique. On se dit souvent, quand le péché entre pour la première fois ou qu'on commette quelque chose de mal, on se dit, bon, je suis chrétien, j'ai la capacité de maîtriser ce péché. Et puis, le jour J, je reviendrai auprès du Seigneur pour demander pardon. Mais en attendant, j'aime bien ce péché, j'aime bien cette vie. Alors je vais vivre comme ça, pour l'instant. Mais le jour J où je serai, quand le Seigneur me reprendra, je reviendrai. Ça, c'est le diable qui vous parle, en fait. Parce que le péché, étant petit au départ, vous envahit et prend le contrôle de vous-même. C'est pour ça que le Seigneur dit, dans Éphésiens 4, « Ne donnez pas accès au diable. » C'est-à-dire, ne serait-ce un petit trou ou une petite espace, il ne faut pas lui donner. Il faut être assez ferme avec le péché, parce que le péché nous transforme, et le salaire du péché, c'est la mort. Au verset 4, il est dit qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Voilà. Au verset 6 aussi, il est dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Souvent, ces péchés-là, ces cupidités-là, ces choses-là, sont liées aussi avec le langage, liées avec ce qui est à l'intérieur. Jésus dit, dans Matthieu 15, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Tout ce qui est déjà péché à l'intérieur de l'homme sort un jour à travers aussi notre langage. Et c'est pour ça qu'il faut aussi faire attention. À travers le langage d'une personne, on peut voir si cette personne est vraiment ancrée en Dieu ou pas. Vous savez, il y a des gens qui parlent toujours des choses que vous n'osez même pas dire, et à chaque fois, lui, il a cette aisance de dire des choses comme ça. Parce qu'il le pense vraiment, parce qu'il veut vivre ça. Cette semaine, j'étais vraiment, vraiment triste. Très triste. Pourquoi? Parce que... Enfin... Ce mercredi, il y a eu l'élection présidentielle en Corée. Vous savez, je suis coréen pour ceux qui ne savent pas. Et j'ai suivi attentivement cette présidence et beaucoup de débats que j'ai pu suivre. Et on a élu une personne misogyne, xénophobe, qui est dans la corruption totale. Il a été élu avec plus de 0,8% par rapport à l'autre candidat. Donc, vous voyez un petit peu mes sentiments. J'étais tellement attristé. Et j'ai vu le débat qu'il a pu parler. Et à chaque fois, quand il critique l'autre, tout ce qu'il critique, c'est ce qu'il vit en fait. Que ce soit la corruption, la misogynie, xénophobe, c'est ce qu'il vit, c'est ce qu'il a fait dans le passé, et il accuse l'autre d'avoir fait ça. Souvent dans notre langage, dans notre colère aussi, ou dans la manière de faire par l'extérieur, les choses visibles, on voit ce qui se vit à l'intérieur de la personne. Et donc, qu'on puisse vraiment travailler à l'intérieur de nous pour que qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Mais qu'on entende plutôt des actions de grâce, que nous puissions honorer le Père avec notre bouche. Que nos paroles soient empreintes de bonté, de justice aussi. Au verset 5, il est dit aussi que ces impudiques, ces impurs, ces cupides sont des idolâtres. Ils n'auront pas d'héritage dans le royaume de Christ, dans le royaume de Dieu. Oui, lorsque nous avons accepté le Christ, nous ne pouvons pas servir le Dieu Mammon, le Dieu d'argent, et le Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 11, il est dit que en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, lorsque le Seigneur nous fait grâce, lorsqu'on ouvre notre cœur pour accepter Christ comme notre Sauveur, par qui nous pouvons, nos péchés sont pardonnés, c'est ainsi que nous devenons héritiers. Héritiers pourquoi ? Pour qu'on puisse le craindre, pour l'adorer, pour vivre une vie d'obéissance à sa parole, pour aimer mon prochain, pour pratiquer la justice en tous les termes, et aussi pour faire connaître cette bonne nouvelle dans le monde entier. C'est comme ça que nous vivons une vie d'héritier du Seigneur. Cet héritage que nous recevons déjà aujourd'hui, mais il y a aussi un héritage que nous recevrons dans les cieux, et ce sont des choses qu'on doit espérer en attendant ce jour J. Pour conclure, ne soyons pas des égoïstes, ne soyons pas des cupides, ne soyons pas dans le péché qui nous empêche d'aller de l'avant, mais soyons vraiment des gens qui pratiquent la justice, qui aiment mon prochain, qui adorent le Seigneur en aimant et en obéissant à sa parole. Nous avons tout à l'heure aussi vu le sondage fait par Élisée qui montre combien de... Enfin, dans le monde entier, il y a beaucoup de gens qui meurent de faim, c'est vrai, qui souffrent. Que nous puissions être plus attentifs à ça. Qu'on ne soit pas insensible, mais qu'on soit plus sensible. Et qu'on prie aussi pour ces gens qui sont dans le besoin. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur, parce que lorsque nous voyons tous ces versets écrits dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, nous voyons que tu es un Dieu qui prend soin de tes enfants et que tu pourvois aussi à nos besoins. Tu veux vraiment que chacun puisse vivre dans le bonheur et aussi, Seigneur, en s'entraidant les uns des autres. Oui, tu nous appelles vraiment à vivre dans la bonne cohabitation et dans l'amour de Dieu. Seigneur, que nous puissions ouvrir nos yeux pour voir aussi les besoins. Et que tu nous inspires aussi pour qu'on puisse aussi contribuer à l'avancement de ton royaume. Que ton nom soit loué, que tu nous donnes aussi des pensées ou peut-être des projets à réaliser dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen.